France Culture. Science Chrono, Antoine Beauchamp.
Imaginez des glaciers éternels devenant soudain vert, rouge ou violet. Ce spectacle extraordinaire est au cœur des travaux d'Erzsébet Kohl, une botaniste et exploratrice hongroise qui fut à juste titre surnommée la Reine des Neiges. Pionnière de la cryobiologie, elle a consacré sa vie à l'étude des algues microscopiques qui peuplent les sommets les plus hostiles des Alpes aux glaciers de l'Alaska. Véritable aventurière scientifique, dans un monde presque exclusivement masculin, elle est devenue l'une des premières femmes professeurs en Hongrie, ouvrant la voie à des générations de chercheuses. Science Chrono retrace aujourd'hui l'épopée d'une femme de tête qui a fait fleurir la science au Royaume des Neiges. Bonjour Anna Cabanel.
Bonjour.
Vous êtes docteur en histoire à l'Université de Louvain et autrice du livre sur les glaciers en fleurs, Erzsébet Kohl, botaniste et exploratrice, paru aux éditions Ampelos. Merci beaucoup d'avoir accepté notre invitation et merci de venir nous raconter l'histoire de cette scientifique méconnue du grand public qu'est Erzsébet Kohl. Avant de retracer son périple scientifique, je vous donne le programme de la deuxième partie de l'émission. Tout à l'heure, dans l'entretien archéologique, nous parlerons d'une découverte réalisée à Grenoble, 32 squelettes humains à proximité des restes d'un édifice étrange qui s'avère être les fondations d'un gibet datant du XVIe siècle auquel on suspendait les cadavres des condamnés à mort. On verra comment cette découverte nous éclaire sur la période de tension qui précède les guerres de religion et en quoi elle illustre à sa façon le développement actuel de l'archéologie de la justice. Mais tout de suite, on revient à notre histoire des sciences avec vous, Anna Cabanel. Vous êtes venue, dans un précédent épisode de Science Chrono, nous parler des femmes universitaires au début du XXe siècle, et notamment de l'histoire de la Fédération internationale des femmes diplômées d'université. Donc tout ça, ce sera un peu en toile de fond de notre discussion. On s'en était tenu à ce moment-là à la dimension collective de ces mouvements, mais on a eu envie, avec l'équipe de Science Chrono, de faire la connaissance de l'une de ces chercheuses qui a pu mener à bien ses travaux scientifiques grâce, entre autres, à un mouvement comme la Fédération que j'évoquais à l'instant. Et cette chercheuse, c'est, vous l'aurez compris, Erzsébet Kohl. Alors, Anna Cabanel, comment en êtes-vous venue à rencontrer cette figure-là et pourquoi elle vous a intéressée au point de vous dire « Celle-ci, je me la garde pour écrire une biographie complète. »
Merci déjà de me recevoir à nouveau. Donc effectivement, mon projet de thèse était sur le programme de bourse pour aider les femmes à faire de la recherche à partir à l'étranger. Et dans les archives internationales à Amsterdam, il y a les comptes rendus, donc les évaluations de ces dossiers de bourse, mais très peu de dossiers de bourse, très peu de comptes rendus de boursières avant les années 60. Et donc on m'a conseillé, Nicole Fouché qui m'a conseillé, donc professeur en histoire, de partir aux États-Unis un peu à l'aventure et de regarder s'il y avait des dossiers puisque l'association américaine des femmes diplômées d'université avait énormément d'argent et en fait finançait une bonne partie des bourses dans l'entre-deux-guerres. Et j'y suis allée, j'ai rencontré l'archiviste qui m'a dit qu'elle venait tout juste de finir d'inventorier une cinquantaine de cartons avec plein de boursières. Et donc là, c'est en épluchant énormément de dossiers que j'ai rencontré Erzsébet Kohl. Et en fait, c'était fascinant parce qu'elle a fait beaucoup de cartes où elle retrace son parcours aux États-Unis jusqu'en Alaska. Donc il y a ce côté qui fait un peu rêver, un peu
ouais.
Voilà, c'est ça. Et surtout, c'était l'une des seules boursières qui a écrit un livre, donc une autobiographie. Donc pas juste un rapport de bourse ou des articles scientifiques, mais une vraie autobiographie en langue hongroise. Donc très difficile d'accès, mais en même temps, il y a la sensation de... Je ne parle pas hongrois, mais de découvrir un trésor qui attend d'être découvert, d'être percé. Voilà.
Et vous êtes du coup, Anna Cabanel, devenue familière de cette Erzsébet Kohl. Qu'est-ce qu'on peut en dire? Que sait-on de son origine hongroise, de l'environnement dans lequel elle est née, de sa formation avant de devenir scientifique? Il n'y a pas beaucoup d'informations, je crois, là-dessus.
On a peu d'informations. Son récit autobiographique se concentre que sur son voyage, donc on obtient peu d'informations. On sait qu'elle vient d'un milieu aisé, puisque son père est ingénieur. Il travaille comme fonctionnaire. À l'époque, pour avoir accès à l'éducation, ça doit être un milieu donc avec certains moyens économiques, mais aussi cultivé. On ne connaît rien de sa mère. Mais on peut penser aussi que c'est une figure qui a pu jouer un rôle dans l'éducation de sa fille. Donc on connaît assez peu de choses jusqu'à qu'elle commence ses études, en fait, dans les années 1920. Voilà.
Ses études supérieures, elle les fait en Hongrie. Qu'est-ce qu'on sait justement de la place des femmes dans cet enseignement supérieur-là, à l'université en Hongrie? Est-ce que c'était un peu comme partout ailleurs en Europe et en Europe de l'Ouest ou aux États-Unis, ou bien la Hongrie avait été un cas un peu à part?
Non, en fait, donc c'est l'Hongrie, ça fait partie du royaume, de l'empire austro-hongrois. Donc il y avait, ça suit la continuité en fait des pays d'Europe de l'Ouest. Donc on a l'accès aux études secondaires, donc de lycée, à la moitié dans les années 1860. Les premières universités, enfin facultés, s'ouvrent à la fin du 19e siècle, donc en 1895. Certaines, donc l'histoire, les sciences naturelles, etc. D'autres arrivent plus tard. Donc on suit une continuité, on voit un lien très fort entre féminisme et éducation. Mmh. Les féministes jouent un rôle très important dans la réformation du curriculum pour faire en sorte que les jeunes filles qui vont au lycée soient formées pour pouvoir accéder à l'université. Et après, c'est vrai qu'avec l'arrivée d'Horthy au pouvoir, ça change un petit peu. Et on a un retour dans les années 20 à une espèce des barrières pour empêcher les femmes d'accéder à l'université.
Vous parlez des années 20, Anna Cabanel. Il faut le dire, Elisabeth Cole est née en 1897. En 1914, éclate la Première Guerre mondiale. Comment tout ça va impacter son parcours universitaire? Est-ce qu'elle continue d'étudier pendant cette période-là? Qu'est-ce qu'on sait de tout ça?
Alors en fait, et ça c'est très intéressant, elle vient de Transylvanie. Donc c'est un territoire qui a été disputé pendant tout le XXe siècle entre l'Hongrie et la Roumanie. Au départ, une université en 1872, l'université François-Joseph, se développe à ce qui est maintenant Cluj. Et c'est très important parce qu'en fait, c'est dans la reconfiguration de l'Empire austro-hongrois, l'Hongrie développe son autonomie, sa modernisation avec cette université. Mais après 1918, après la fin de la Première Guerre mondiale et le traité du Trianon, la Hongrie perd ce territoire et donc l'université est déplacée.
Mmh. Dans cette université-là, qu'est-ce qu'elle étudie? Quelle spécialité elle décide d'étudier en particulier?
Alors les sciences naturelles. Mmh. Et elle se spécialise déjà en biologie. Donc c'est par là qu'elle commence ses travaux en biologie. Donc à cause de la guerre, elle se déplace, elle doit partir étudier ailleurs. Donc toujours en Hongrie, mais dans l'université qui s'est déplacée. L'université se déplacera plusieurs fois au cours du coup de ces années de turbulence. Et donc elle obtient d'abord un diplôme pour enseigner en biologie, ce qui était un peu le parcours typique des femmes. Et puis elle continue en obtenant un doctorat, ce qui est beaucoup plus rare.
En 1925, un doctorat intitulé « Travaux préparatoires sur la connaissance de la flore algale des terres basses hongroises », ce qui est assez précis, mais on est loin pour l'instant des hautes montagnes.
Oui, alors il faut savoir que l'algologie, l'étude des algues, c'est pas quelque chose de nouveau, mais c'est vrai que ça se pratique surtout des eaux douces et eaux marines. Donc on a beaucoup de stations biologiques qui étudient les algues, de grands scientifiques renommés, mais les algues des neiges et des glaces, c'est quelque chose encore de peu connu.
Alors, vous parlez de cette étude des algues qui répond finalement, enfin en tout cas qui est pratiquée dans des stations d'études de biologie marine. Ça va être capital pour la formation intellectuelle et le développement finalement d'un véritable réseau scientifique pour Elisabeth Cole. À partir de quand elle commence à se déplacer en Europe justement pour aller étudier dans telle ou telle station de biologie?
Mais donc à partir des années 1930, elle obtient des bourses de l'État hongrois. Donc du coup l'État hongrois croit en elle et en son projet, et elle va en Suisse. En Suisse, elle étudie à l'université de Genève auprès d'un professeur très renommé qui connaît donc du coup l'étude des glaces, des algues pardon, et avec ce professeur qui a participé à établir un jardin alpin. Elle se déplace, elle observe, elle participe à des séminaires avec d'autres chercheurs, doctorants qui viennent un peu partout en Europe, et elle découvre du coup cette étude des algues, des terrains en fait froids.
Elle va en Suisse, elle va en Allemagne, elle va en Suède, et donc là, vous le dites, elle fait des rencontres importantes pour son parcours scientifique, mais aussi elle publie pas mal d'articles scientifiques, si j'ai bien compris.
Elle publie beaucoup, et puis surtout, elle publie dans différentes langues. Mmh. Donc, son doctorat...
C'est déjà quelque chose de...
C'est ça. Ouais. En fait, on voit que ces voyages d'études qui sont assez court parfois, mais ont vraiment un impact très important pour sa carrière, puisqu'elle s'ouvre à des réseaux scientifiques en dehors de la Hongrie. Elle publie en français, en allemand, elle est reconnue, elle est acceptée membre de la Société botanique de France, quand même, donc il faut être proposé par des membres. Donc on voit qu'il y a un réseau qui se bâtit, une réputation qui se met en place. Donc oui, ces voyages ont vraiment joué un rôle extrêmement important dans sa construction scientifique.
Et l'Europe ne lui suffit pas, parce qu'elle va vouloir, comme elle le dit, se rendre sur les champs de neige et les immenses glaciers du Nouveau Monde. Qu'est-ce qui la pousse scientifiquement à se tourner vers l'Amérique ?
Alors je pense que je ne suis pas une spécialiste de la cryobiologie, mais il y a certains spécialistes de ces algues de neige et de glace en Europe, notamment dans les Alpes. En fait, elle, ce qu'elle veut faire, c'est comparer ces populations d'algues en Europe avec celles d'Amérique du Nord pour essayer de comprendre quelles sont les différences et est-ce que l'étude de ces algues peut permettre d'apporter plus d'éléments à la théorie de la Pangée, des deux continents qui étaient un seul supracontinent à l'époque.
Alors, Anna Cabanel, Hergé Bethcol, elle se déplace pas mal en Europe, mais on se doute que c'est pas si simple que ça de franchir l'Atlantique à cette époque-là, au début des années 30, pour mener à bien ce genre de travaux scientifiques qui requiert, on va le voir, une expédition assez épique. Comment elle s'y prend pour obtenir justement des aides à réaliser cette enquête scientifique ?
Alors, effectivement, c'est difficile. Il y a tout le côté financier, puisque c'est quelque chose qui demande énormément d'argent, et puis bon, un réseau pour permettre de se déplacer, etc. Et le gouvernement hongrois, en fait, n'a pas assez de fonds pour pouvoir la soutenir financièrement. Et par le biais de réseaux qu'elle a établi, un professeur dont la femme a été l'une des fondatrices et membre de l'Association hongroise des femmes diplômées des universités, qui a été fondée en 1925, aussi en réaction aux barrières mises par le gouvernement d'Horthy pour les femmes qui veulent étudier. Et en 1926, elle est raccordée à la Fédération internationale. Et donc, on lui parle de ce programme de bourse qui a été mis en place en 1924. Et on lui propose de monter un projet et de demander un financement de la part de cette organisation internationale.
Financement qu'elle obtient à hauteur de combien d'argent à peu près, si on se replace dans l'économie de l'époque aussi?
Alors, c'est 1 500 $ à l'époque. Comme ça évolue à chaque fois, je ne suis pas sûre, mais peut-être dans les 8 000 euros maintenant, mais il faudrait vérifier.
Bon, en tout cas, c'est quand même, pour l'époque, un financement qui est assez confortable. En mars 1936, elle embarque pour les États-Unis. Elle débarque à New York avec un visa de travail, de recherche de 6 mois. Quel est l'itinéraire qu'elle envisage alors de faire? Comment elle a pensé son voyage scientifique?
Alors déjà, elle arrive en mars, ce qui n'est pas la période idéale pour étudier, pour observer ces algues, et surtout la floraison des algues, puisque ça arrive au début de l'été, en fait. Ce qui peut paraître paradoxal, parce qu'on se dit, si on travaille sur les glaciers, il faudrait y aller en hiver, mais en fait, non, c'est vraiment pas... C'est au début de l'été. Donc, la manière dont elle a pensé son trajet, au début, c'est rencontrer des scientifiques, rencontrer les spécialistes, pour pouvoir... une fois sur place, sur le terrain, être extrêmement efficace, procéder à des échantillonnages, une collection des algues et pouvoir les ramener et les étudier en Hongrie. Donc la première partie, c'est vraiment aller à New York, à Washington, et en parlant avec tous ces scientifiques, elle se rend compte qu'en fait, c'est très important d'ajouter l'Alaska. Son premier parcours n'incluait pas l'Alaska parce que ça faisait...
C'est énorme, c'est quand même loin.
C'est ça, c'est très loin. Il faut prendre notre bateau, comme elle vient en bateau depuis la Hongrie. Enfin, il faut imaginer, c'est un très grand périple. Et puis surtout, ça requiert des fonds supplémentaires.
Donc là, intervient justement un cofinancement, comme on dirait aujourd'hui, quoi.
C'est ça. Donc elle se rend à l'institution Simpsonienne, qui du coup finance énormément de scientifiques et notamment des expéditions scientifiques. Et en fait, elle a l'aide de ces femmes américaines diplômées des universités qui l'assistent, qui l'aident à rédiger un dossier de manière très rapide en anglais. Et donc, elle obtient ce financement de $700 supplémentaires qui lui permet de rajouter l'Alaska à sa carte.
Un de ses collègues, je crois, qui rentre d'Alaska, la décourage franchement d'y aller en lui disant « c'est terriblement hostile, il y a des moustiques, t'en reviendras pas vivante en gros ».
C'est ça. Et donc ça, c'est quelque chose, une anecdote qu'elle raconte dans son autobiographie. Et elle raconte ce qui lui a été dit. Et sa réponse aurait été « on le saura quand je reviendrai ».
Ce qui est assez preuve de sa force de caractère. Alors on va illustrer cet esprit scientifique et aventurier d'Hergé Bethcolle. On va écouter un extrait de son livre intitulé traduit en français, mais non, enfin ça n'a jamais été traduit en français, mais le titre de son livre c'est Des berges de la Tissa jusqu'à l'Alaska. C'est paru en Hongrie en 1940. La lecture vous est faite par Oriane Delacroix. C'est l'archive de Science Chrono.
De minuscules organismes végétaux, pour la plupart unicellulaires, vivant à la surface de la neige ou de la glace, dont la taille dépasse à peine quelques millièmes de millimètres, peuvent, lorsque les conditions de vie leur sont favorables, couvrir les surfaces de neige ou de glace en telle quantité qu'ils les colorent. Ce phénomène naturel extrêmement intéressant et rarement observable est la neige et glace colorée. Floraison de neige et floraison de glace. On connaît des floraisons neigeuses de couleur rouge, rose, verte, noire, jaunâtre, ainsi que des floraisons glaciaires de couleur violet-brun clair. La neige colorée est connue depuis longtemps des explorateurs polaires et des touristes de haute montagne. En Alaska, en 1936, dans l'un des plus beaux endroits de la chaîne Chugach, au col de Thompson, je vis de la neige rouge dont la couleur était d'un rouge si vif qu'on aurait dit que la surface du champ de neige avait été saupoudrée de paprika. Les recherches doivent être menées sur place, car chez les organismes vivant dans de telles conditions extrêmes, tout changement des conditions de vie les paralyse immédiatement. Il faut effectuer nos expériences dans l'atelier même de la nature, afin de connaître complètement les secrets des êtres vivants des champs de neige et de glace. De même qu'on a créé dans de nombreux pays des instituts de recherche pour l'étude des eaux douces ou des stations pour l'étude des mers, il serait tout aussi nécessaire de créer des instituts de recherche sur la neige et la glace. Jusqu'à présent, un seul institut de recherche de haute montagne a été établi. En 1930, en Europe, au col de la Jungfrau, à 3540 mètres d'altitude, où le chercheur, au cœur même du royaume de la neige et de la glace, a la possibilité d'étudier les êtres vivants de la neige et de la glace avec un équipement de laboratoire complet.
Voilà cet extrait du livre Des berges de la Tissa jusqu'à l'Alaska, malheureusement non traduit en français. Ce texte, moi, je l'ai découvert grâce à vous, Anna Cabanel, qui avait œuvré. Vous êtes retroussé les manches et puis vous avez demandé un petit peu à Google, si je ne dis pas de bêtises, dans cette traduction. Mais en tout cas, ce texte fait envie, on a envie de le lire en entier. Et c'est surtout ce que ça présente de ces paysages assez merveilleux. Il y a à la fois cette dimension poétique, mais aussi une dimension très, très concrète. Et on voit voilà, l'ambition d'Hergé Bethcolle de dire « mais il faut des instituts adaptés à ces études ». Là, il y a une autre expression que je retiens de ce texte-là, c'est l'atelier même de la nature, qui nous amène à parler en fait à l'époque de cette dichotomie entre le laboratoire et le terrain. Quel était le bras de fer qui s'opérait entre ces deux espaces de science là?
En fait, à partir de la première moitié du XXe siècle, le laboratoire s'impose vraiment comme l'espace scientifique. Parce que dans le laboratoire, c'est la neutralité, l'objectivité d'excellence par excellence. Donc la blouse, par exemple, portée par les scientifiques, c'est vraiment l'effacement du corps du scientifique pour être juste la science, incarner la science. C'est un espace qui est contrôlé, avec une possibilité de reproduire des expériences. Donc c'est vraiment l'idéal de l'espace scientifique, c'est le laboratoire. Et donc du coup, comparer en opposition, les recherches sur le terrain apparaissent un petit peu inférieures, c'est ça.
Un peu vulgaire.
Vulgaire, et puis surtout, c'est un champ où se mélange plein de répertoires. Donc il y a le scientifique, il y a le montagnard, il y a les touristes, il y a le sportif. Et donc en fait, c'est pas vraiment un espace scientifique, mais c'est un espace pluriel qui est habité par plein de gens, plein de différents types de personnalités. Et donc les chercheurs sur le terrain font face à oui, une espèce de comparaison qui est pas qui est à leur détriment.
Et Hergé Bethcolle, elle s'impose, elle impose ce terrain-là. Et ce qui est drôle, c'est quand on fait des recherches un peu sur elle sur Internet, on tombe sur des photos d'elle avec un microscope posé sur un caillou en montagne où elle montre vraiment que son laboratoire, c'est la montagne et nulle part ailleurs.
C'est ça. Et alors c'est pas juste elle, hein, c'est vraiment les chercheurs, à partir du moment où ils se rendent compte qu'ils ont moins de crédibilité que ceux qui travaillent au laboratoire, ils commencent à adapter une nouvelle façon d'être scientifique. Donc les récits scientifiques du 19e siècle qui se déplacent sur le terrain, mettant en valeur le côté un peu exotique, un peu aventurier, etc. Et puis petit à petit, en fait, ils prennent une prose plus scientifique. Il y a cette mise en valeur ou mise en scène du scientifique avec donc les instruments, par exemple le microscope, sur le terrain, pour vraiment montrer que c'est un vrai travail scientifique et pas juste quelque chose d'agréable, une promenade en montagne.
Est-ce qu'on retrouve ça dans les textes d'Hergé Bethcol, justement, cette scientifisation du récit d'aventure scientifique ?
Alors, particulièrement dans ses articles scientifiques ou le rapport qu'elle envoie à la Fédération internationale des femmes diplômées d'université, ça c'est très scientifique, c'est vraiment aucune mise en scène héroïque, aucun détail de l'accès difficile au glacier, etc. Non, c'est vraiment extrêmement scientifique. Donc sur les algues, la manière dont elles fleurissent, etc. Dans l'autobiographie, c'est un peu un mélange des genres. Puisque là, du coup, c'est quelque chose qui est pour un public plus grand. Et donc, on a cette mise en scène, quand même, d'une femme scientifique qui est scientifique, qui s'inscrit dans la tradition des plus grands scientifiques qui ont été les premiers, donc un Norvégien qui était le premier à observer cette floraison des glaciers. Et les photos sont très importantes puisqu'elles permettent de se mettre en scène en tant que scientifique sur le terrain. Donc, vous évoquiez cette photo avec ce rocher, ce microscope sur le rocher. Et donc, ça fait partie d'une mise en scène d'une scientifique sur le terrain.
Je disais tout à l'heure qu'Hergé Bethcol, elle évolue quand même dans un milieu qui est quasiment exclusivement masculin. Dans son récit, j'imagine qu'on perd cette dimension un peu viriliste de l'aventurier qui va mettre son corps en péril au nom de la science.
C'est ça. Alors, c'est vrai que le travail de terrain, c'est quelque chose de plus masculin. Ça se retrouve aussi en archéologie, par exemple. Mais en plus, les conditions extrêmes, par exemple les glaciers, les volcans, tout ce qui est extrême, c'est quelque chose qui est dans l'imaginaire collectif et quelque chose pour les vrais héros, les hommes forts. Toute la littérature qui existe sur la découverte des pôles, toute la littérature en fait d'exploration scientifique, c'est un héros masculin qui conquiert la science qui est toujours rendue féminine, qui est féminisée. Alors en français, ça paraît normal, mais en anglais, par exemple, c'est vraiment ça.
Durant son expédition, est-ce qu'elle est confrontée justement à son statut de femme et à une misogynie, à un sexisme important de la part des scientifiques qui la rencontrent, ou même d'autres personnes qu'elle va croiser sur son chemin? Parce que c'est quand même, si on se met à la place d'Hergé Bethcol dans les années 30, paumée au fin fond de l'Alaska, une femme avec son microscope, on se dit que c'est pas si commun que ça.
Alors, elle évoque quelques anecdotes, et on sent que c'est pas ce sur quoi elle veut mettre l'accent de manière intéressante. Elle se met en scène en tant que scientifique, moi en tant que femme scientifique. Vous l'évoquiez, l'épisode de ce collègue tchèque, il me semble, qui lui dit qu'elle ne pourra pas faire face à ses moustiques, etc. Donc ça, c'est une première anecdote qui montre quand même les préjugés, les stéréotypes de genre à son encontre. Et un autre épisode, c'est quand elle est dans les parcs nationaux américains et qu'elle veut rester dans les cabanes des Rangers. Et on lui dit, mais c'est pas adapté. Les Rangers, ils viennent pas avec leur famille, donc c'est pas du tout adapté pour vous. Et alors, elle écrit à cette association des femmes diplômées des universités qu'en fait, ils avaient pas compris que c'était pas une femme, mais c'était une femme universitaire. Et en soulignant universitaire.
Ouais. Alors, on parle souvent, c'est un mot qui est un peu galvaudé, de pionnier ou de pionnière. Là, dans le cas d'Hergé Bethcol, c'est vraiment le cas. Parce que je crois qu'elle a vraiment, découvert beaucoup de choses aux États-Unis dans le monde de la cryobiologie. Qu'est-ce qu'on peut mettre en avant comme apport d'Hergé Bethcol à ces sciences-là botaniques dans ces milieux froids que sont les montagnes et les glaciers?
Alors, c'est vrai que la floraison des glaces, des neiges avait été observée avant, mais en fait la cryobiologie n'existe pas vraiment, n'est pas vraiment développée aux États-Unis. Quand elle se rend à Ann Arbor, elle rencontre un spécialiste donc des algues qui a une grande collection et qui dans cette collection possède quelques algues qui ont été récupérées justement par des montagnards, etc. D'algues des neiges, mais en fait ça n'a jamais vraiment étudié. Et donc c'est la première à effectuer des échantillonnages d'algues des neiges partout en Alaska, dans différents parcs nationaux, au Montana, au Colorado. Et en fait elle réussit à construire la plus grande collection d'algues, des neiges au monde.
Elle va faire aussi des observations de neige verte dans le parc de Yellowstone durant cette expédition, ce qui n'avait jamais été fait jusqu'à présent. Donc heureusement qu'elle est là pour documenter ce genre de phénomènes qui après peut-être se sont multipliés, on ne sait pas, avec le réchauffement climatique. On parlait de son visa de recherche, 6 mois, c'est pas si long que ça. Comment se déroule cette expédition? Comment elle se termine? Qu'est-ce qui va l'arrêter finalement dans cette aventure scientifique?
C'est les températures. En fait, la floraison, c'est une période assez courte, mais surtout, au bout d'un moment, s'il fait trop chaud, c'est plus possible d'observer ou de les garder. Donc, elle raconte, par exemple, quand tu es dans le Colorado, c'est idéal pour observer dans les montagnes, sur la neige, mais dès qu'elle redescend dans la ville, en fait, il fait plus de 40 degrés, donc c'est quasiment impossible. Donc, c'est aussi une question de... cette recherche sur le terrain, c'est vraiment lié à des paramètres qui sont naturels. Oui. Donc, au bout d'un moment, elle doit rentrer.
Dépendant de la météo. Alors, les premières neiges, vous le dites, donc la surprennent et interrompent ses travaux en septembre. Elle va quand même se débrouiller pour faire un petit détour par le Canada, les chutes du Niagara, pour aller étudier d'autres algues encore. Qu'est-ce qu'on peut dire d'Hergé Bethcol et de son héritage d'une certaine façon, parce que je le disais en introduction de cette émission, elle n'est pas très connue du grand public. Je crois qu'en Hongrie, elle jouit quand même d'une plus grande célébrité, mais voilà, comment son parcours s'est poursuivi après 1936, après cette expédition qui a quand même été un tournant dans son parcours scientifique?
Donc en rentrant, elle passe quand même un mois, il me semble, à Londres. Où elle rencontre à nouveau d'autres scientifiques qui travaillent sur les algues marines, les algues d'eau douce. Donc elle se constitue un vrai réseau. Et puis quand elle rentre en Hongrie, elle a la plus grande collection d'algues au monde. Et donc on continue en fait à lui envoyer, mais jusqu'à la fin de sa carrière, des échantillons d'un peu partout, d'Afrique du Sud, de Nouvelle-Zélande. Donc voilà, et puis surtout quand elle rentre, elle obtient une reconnaissance puisqu'elle devient la première femme... professeur, alors c'est professeur associé, mais c'est la première. Il y en a une avant, mais elle est extraordinaire, donc c'est un autre statut. Mais voilà, c'est l'une des premières, en tout cas, qui ouvre la porte du professorat à l'université aux femmes. Alors, pas très longtemps, puisque la Seconde Guerre mondiale chamboule à nouveau tout.
Il y aura une algue même qui sera nommée en hommage à Hergé Bethcol.
Oui, alors ça se fait souvent en science. On nomme les étoiles après ceux qui les découvrent, les algues, etc. Mais c'est quand même un événement notoire et surtout ça montre à quel point elle a été reconnue comme l'une des pionnières, l'une des personnes très importantes pour sa discipline. Alors c'est une petite discipline, c'est pour ça je pense qu'on la connaît peut-être moins.
Hergé Bethcol, elle décède en 1980. Une toute dernière question, Anna Cabanel, comment on peut raccrocher finalement son parcours à cette histoire plus vaste que vous connaissez très bien de ces femmes universitaires du début du XXe siècle qui ont dû se retrousser les manches justement pour exister et pour pouvoir travailler?
Je pense que ça illustre quand même l'importance des réseaux, et notamment des réseaux féminins. Parce que sans cette bourse qui était spécialement pour les femmes, elle aurait peut-être eu la possibilité, mais en tout cas, ça a vraiment joué un rôle très important dans sa carrière internationale, dans sa reconnaissance. Et le fait qu'elle soit reconnue, qu'elle ait un réseau si important, ça a influé sur sa reconnaissance en Hongrie. La demande d'écrire un livre témoigne également de l'importance qu'elle joue comme passeuse de culture entre deux continents. Donc vraiment, c'est les réseaux. Ça illustre l'importance des réseaux. Ça illustre aussi l'importance des changements nationaux, au gré des guerres, des territoires qui sont disputés entre deux pays et l'impact que ça peut avoir sur des chercheurs puisqu'elle perd une partie de sa collection quand l'université est rapatriée en Transylvanie, puis elle doit partir à nouveau pendant la guerre avec ses échantillons dans un sac à dos. Enfin donc, on voit que c'est quand même un parcours, une trajectoire marquée par les guerres, par les déplacements, par les turbulences.
Et si on veut en savoir plus sur Hergé Bethcol, je vous invite à lire « Sur les glaciers en fleurs, Hergé Bethcol, botaniste et exploratrice ». C'est le titre de votre livre, Anna Cabanel, paru aux éditions Ampelos. Merci beaucoup d'être venu nous raconter cette histoire de la Reine des Neiges. Et puis, je vous souhaite de faire, vous, cet itinéraire-là que vous souhaitiez faire, je crois.
Merci. Merci beaucoup.
Angel in the Snow par Elliott Smith dans Science Chrono sur France Culture. On quitte les montagnes enneigées d'Amérique pour aller au pied des Alpes françaises. On va parler d'une découverte archéologique qui fait un peu froid dans le dos.
Science Chrono, l'entretien archéologique. Antoine Beauchamp.
En 2024, des fouilles préventives menées par l'INRAP à Grenoble mettent au jour une trentaine de squelettes humains qui n'ont visiblement pas eu les honneurs de funérailles en bonne et due forme. Ces squelettes se trouvent à proximité des fondations d'un édifice suscitant tout de suite la curiosité des chercheurs qui émettent quantité d'hypothèses. La réponse finit par surgir des archives judiciaires et d'un plan dessiné au milieu du XVIe siècle, celui d'un gibet qui servait à exhiber les cadavres des personnes condamnées à mort. Que nous apprend cette découverte sur l'importance du pouvoir judiciaire à Grenoble, alors même que se raidit le pouvoir royal vis-à-vis des protestants avant les guerres de religion, et que nous dit-elle sur les avancées d'une archéologie plutôt récente, l'archéologie de la justice. C'est ce que nous allons voir avec l'un des principaux artisans de la découverte de ce gibet, Nicolas Mainvielle-Larousse, bonjour.
Bonjour.
Vous êtes historien, archéologue, chargé de recherche CNRS. Vous êtes responsable scientifique du chantier de fouilles conduit par l'INRAP à Grenoble. Merci beaucoup d'avoir accepté notre invitation et merci de venir nous parler de cette découverte du gibet, une découverte qui témoigne d'une archéologie, donc je le disais, de plus en plus en vogue, l'archéologie de la justice. On va bien sûr parler de la fonction de ce gibet à cette époque, du contexte historique dans lequel il nous replace et des informations qu'il nous livre sur l'autorité royale et judiciaire avant les guerres de religion. Mais pour démarrer, j'aimerais qu'on remonte à la source de cette découverte. Quel est le point de départ des fouilles qui ont été conduites à Grenoble et à quel emplacement elles ont été réalisées?
Alors le point de départ, c'est un réaménagement de l'esplanade qui est conduit par la ville de Grenoble. L'esplanade, c'est un grand espace qui se situe à l'entrée nord de la ville, un espace qui était dédié aux promenades, qui était dédié à des fêtes foraines, un parking aussi, et la commune en fait notamment un grand parc. Donc un diagnostic a d'abord été prescrit par l'État pour explorer cet espace qui n'avait jamais été fouillé, qui n'était pas connu, histoire de façon à savoir ce qu'il pouvait y avoir, si des vestiges des occupations étaient référencés. Donc un diagnostic en 2023 qui a été mené par un de mes collègues, Fabien Isnard, et un diagnostic qui a été positif, si bien qu'il a généré la prescription d'une fouille en 2024.
Quand on parle d'un diagnostic positif, quels sont les premiers éléments qui surgissent à ce moment-là en 2023 ?
Alors ce sont des traces d'occupation qui remontent en général à l'époque moderne sur l'esplanade, donc c'est, on en parlera sans doute plus tard, les diverses tentatives des pouvoirs urbains pour gagner cet espace sur la rivière, mais c'est aussi et surtout un édifice qui apparaît en limite d'emprise, un édifice quadrangulaire avec à l'intérieur quelques inhumations, dont une a été notamment fouillée lors du diagnostic, et une inhumation qui a été datée du XVIe siècle.
Quelles sont du coup les fouilles qui sont réalisées? Comment élargit-on ce diagnostic-là? À partir de ce moment-là, quelles vont être les autres choses qui vont affleurer sur ce site de l'esplanade?
Alors devant cette découverte, donc les services de l'État, le service régional de l'archéologie a prescrit une fouille donc qui était centrée sur ce secteur-là de l'esplanade, de façon assez large pour qu'on puisse le comprendre, avec l'objectif de le fouiller en totalité, de fouiller bien sûr l'ensemble des inhumations qu'il y avait à l'intérieur et de replacer tout ça dans son contexte. Donc la fouille a démarré en 2024, elle a duré 2 mois et on a pu effectivement fouiller l'ensemble. Et on a été mis devant des choses qui n'étaient pas totalement prévues, avec beaucoup plus d'inhumations que prévues. Tout au cours de la fouille, l'une des questions était de savoir ce qu'était justement cet édifice.
Alors, vous parlez de plus d'inhumations que prévues. À quel nombre s'élèvent ces squelettes qui sont découverts sur ce site?
Alors, au minimum, on a identifié 32 individus. Donc, c'est un minimum parce que les individus n'étaient pas tous entiers dans les fosses. Donc, il y a un dénombrement qui est fait. Et c'est un minimum aussi parce que l'ensemble de l'édifice n'a pas été totalement fouillé. Donc, une partie... est en dehors de l'emprise.
Quel constat vous réalisez en observant, et les anthropologues réalisent en observant ces squelettes qui vous font vous dire on n'est pas sur un cimetière particulièrement, enfin en tout cas tout à fait classique?
Alors il y a eu deux étapes dans cette constatation. La première c'était lors de la fouille bien sûr. On s'attendait à avoir 3, 4, 5 inhumations et en fait on tombe devant plusieurs fosses, des fosses avec plusieurs individus. Et ce qui est étrange d'abord c'est l'organisation, c'est la gestion de ces corps. Les individus inhumés individuellement étaient rares, les fosses multiples, simultanées, étaient beaucoup plus nombreuses. Parfois, certaines fosses allaient jusqu'à 14 individus mis à l'intérieur, ils étaient désorientés, ils étaient mis tête bêche, parfois à l'envers, les uns sur les autres, parfois même de façon imbriquée dans ces fosses, avec une fosse centrale en particulier qui a eu plusieurs phases d'utilisation, avec des premiers dépôts simultanés, ensuite des os en position secondaire qui ont été remobilisés, des morceaux de corps qui étaient en position anatomique, d'autres qui ne l'étaient pas. Bref, il y avait des choses qui étaient étranges, qui pouvaient correspondre parfois à des sépultures dites de catastrophe, quand il y a une crise de surmortalité. C'était l'une des hypothèses d'ailleurs, mais il y en avait d'autres. Et l'autre élément qui est apparu cette fois-ci lors de la post-fouille, c'est l'étude biologique de la population. Et notamment, il y avait, au-delà d'un état sanitaire qui était assez bon, globalement, il y avait quelques traumatismes sur ces individus. Et en particulier, on a noté deux lésions traumatiques sur un crâne, dont la coupe nette d'une vertèbre.
Et ce qui signifie
cette vertèbre, ce qui signifie que cet individu a été décapité. Donc toutes ces observations ont été réalisées donc par l'équipe d'anthropologues et en particulier par ma collègue Angèle Corbara. Et à partir de ces indices, on a de plus en plus réfléchi, on a réfléchi avec nos collègues, on a réfléchi avec le service de l'État. Il n'y avait pas d'éléments décisifs pour identifier cet édifice, mais il y avait quand même un faisceau d'indices qui nous engageait à aller plus loin.
Nicolas Mainvielle-Larousse, vous évoquiez tout à l'heure le fait que dès le diagnostic, finalement, on date ces vestiges au XVIe siècle. Quelles informations on avait sur cet emplacement-là de l'esplanade au XVIe siècle? À quoi ça ressemblait? Est-ce que c'était un endroit qui était habité ou bien pas du tout? Qu'est-ce qu'on y faisait à cet endroit-là de façon un peu générale? Qu'est-ce qu'on en savait?
Alors, on n'en savait à peu près rien. On en savait qu'il s'agissait d'une berge de l'Isère qui était en dehors de la ville. Donc, une berge de l'Isère qui, en plus, était inondable. L'Isère est une rivière qui sort régulièrement de son lit. Donc, c'était plutôt un endroit inoccupé, en tout cas, que l'on pensait complètement inoccupé, qui était essentiellement, en fait, utilisé à exploiter le bois qui était là, à exploiter le sable également. Mais aucun autre indice particulier. On savait dans les alentours qu'il y avait plusieurs édifices religieux, plusieurs chapelles, mais plutôt proches de Grenoble. Et c'était justement l'un de ces édifices religieux qui n'était pas bien localisé à ce moment-là, qui a été la première hypothèse. Première hypothèse qui avait été identifiée par un collègue des archives départementales de l'Isère avec qui on a travaillé.
Donc là, vous pensiez à une chapelle éventuellement. Quelles sont les hypothèses qui ont été mises? Vous disiez que assez rapidement, on a écarté aussi la sépulture de catastrophe qui survient après notamment une grosse épidémie. Quelles ont été les suggestions posées sur la table en disant on ne sait pas, on va mettre tout ça au pot et puis on va réfléchir ensemble?
Alors, donc effectivement, la première hypothèse, c'était cet édifice religieux. C'était un ermitage dédié à Saint Jérôme qui a été supposé. Et dès que l'on a repris les recherches, on s'est rendu compte que l'ermitage à Saint Jérôme était localisé plus au sud, à l'intérieur de Grenoble. Donc l'hypothèse a été exclue. Et toutes les autres ont été évaluées les unes après les autres. Donc il y avait toujours un édifice religieux qui pouvait être utilisé. Il y avait l'hypothèse d'une maladrerie, d'un endroit où on va cantonner et ensuite inhumer les malades contagieux. Au XVIe siècle, il y a un certain nombre de vagues épidémiques dont ça aurait pu être possible. Il y avait l'hypothèse du gibet, que l'on avait également à ce moment-là, et puis des événements militaires, des inhumations liées à ce genre d'événements, mais un peu plus flou. Et donc, à mesure de l'évaluation de ces hypothèses, on a exclu d'abord, et puis ensuite on a fini par inclure avec l'examen des inventaires, puis des sources judiciaires.
Alors, les sources judiciaires, de quoi on parle? Là, ce qui est très beau dans cette découverte, c'est que l'enquête archéologique se prolonge dans les archives. Vers quel type d'archives vous allez vous tourner en premier lieu pour essayer d'obtenir des réponses à vos questions?
Alors, on va du plus probable au moins probable. Un édifice judiciaire, ici on est à Grenoble, on est un lieu où le pouvoir public du dauphin est le principal. Donc s'il y a une justice, le plus probable, c'est la justice delphinale publique. Donc on va regarder les séries des archives publiques, donc la série du Parlement de Grenoble, qui était en charge de cette justice. Et dans les inventaires figurait la mention d'un gibet dit du port de la Roche. Mais à ce moment-là, le port de la Roche, c'est un toponyme qui est bien connu à Grenoble, qui est plus au sud, qui n'est pas nécessairement associé à l'endroit où on a fouillé. Et cette association a été faite, d'une part parce que Quand on regarde les autres documents qui concernent plus spécifiquement le lieu où on fouille, on s'est rendu compte que le port de la Roche était aussi associé à ce lieu. Mmh. Donc il y a eu une correspondance géographique, on avait la correspondance chronologique parce qu'on savait que ça datait du XVIe siècle, et il manquait une confirmation. Cette confirmation, on l'a eue lorsque l'on a identifié un compte de construction avec un plan, et ce plan correspondait parfaitement aux vestiges fouillés.
Qu'est-ce que c'est qu'un compte de construction au XVIe siècle, Nicolas Mainvier de Larousse ?
Alors c'est un compte est conservé dans les archives publiques, donc c'est l'ensemble des pièces que l'administration conserve pour documenter cette construction, qui est assez proche d'ailleurs des archives que l'on peut produire aujourd'hui, avec des devis, avec des appels d'offres, avec des comptes rendus de travaux et des PV.
À quoi ressemble cet appel d'offres ? Alors là, on n'est pas sur un appel d'offres d'un rond-point, quoi. On est sur un gibet. À quoi correspond cette confirmation qu'il s'agit bien de cet édifice quadrangulaire, qu'il s'agit bien d'un gibet ? Quel est le document que vous avez en main qui vous fait vous dire « là, c'est bon, on a notre réponse ».
Alors d'abord, avant même de lire en détail le compte, il y avait un plan d'une charpente qui était associée aux différentes pièces. Et donc ce plan de la charpente avait une forme et des dimensions qui correspondaient exactement à ces vestiges. Donc c'est ce qui a fait immédiatement attirer l'œil. Et puis ensuite, notre collègue Éric Cissot a fait l'édition complète des comptes, donc ce qui nous a permis d'avoir toutes les dimensions, d'avoir l'ensemble des détails et surtout d'avoir les étapes du chantier. Parce que ce gibet n'a pas été construit en une seule fois, il a été construit de 1544 à 1547. Il y a eu plusieurs projets et la réalisation n'est pas exactement le projet initial.
Il y a eu des petits aménagements. Alors puisqu'on parle d'un gibet, on n'est pas tous et toutes familiers de ce que c'est que cet édifice judiciaire. On peut avoir lu Les Rois Maudits de Maurice Druon et on a une vague idée de ce que c'est avec le gibet célèbre de Montfaucon, mais qui lui se situe à Paris. Qu'est-ce que c'est qu'un gibet au XVIe siècle ? À quoi ça sert ?
Alors, un gibet, c'est un édifice judiciaire, donc qui s'insère dans un système judiciaire, qui sert à l'exhibition des condamnés à mort par leur pendaison à des poutres, donc fixées sur des piliers. Donc, ces condamnés à mort, généralement, sont exécutés sur des places publiques, parce que l'exécution doit être publique, et ensuite, ils sont amenés, donc sur des charrettes, vers le gibet pour qu'ils y soient exposés de façon à signifier leur condamnation et à le signifier de façon plus ou moins longue en fonction de la circonstance. Ça peut aller de plusieurs jours, ça peut aller même à plusieurs années. Et c'est donc un édifice qui doit être visible et qui doit être potentiellement monumental si la justice qui l'utilise se revendique comme étant une justice importante. Et ici, c'est le cas, parce qu'on a un gibet qui compte 8 piliers, donc le nombre de piliers représentatifs de cette hiérarchie judiciaire. Le roi, le gibet royal de Montfaucon le plus connu à Paris, en avait 16 notamment. Donc ici, on est sur une justice de principauté, mais ça reste une justice royale, donc il y a 8 piliers. Et c'est un édifice qui devait se voir par les habitants, bien sûr, mais aussi par tous ceux qui passaient. Ils étaient généralement installés en limite de juridiction quand on rentrait dans une juridiction, donc il fallait que l'on sache à qui on avait affaire. Et c'est un édifice qui devait se voir donc par les passants, donc des chemins, qui devait se voir également par les bateliers si on était à proximité d'une rivière, ce qui est le cas. Et si bien que on comprend l'ampleur de ce gibet, hein, il mesure environ 8 à 9 mètres de côté, il faisait environ 9 mètres de haut. Il était parfaitement visible dans le paysage.
Est-ce que c'était si fréquent d'avoir des gibets de cette envergure-là ailleurs qu'à Paris ou dans les grandes agglomérations de France ?
Alors, c'était fréquent en effet. À chaque fois qu'il y avait une justice qui dépendait du roi, il pouvait y avoir ce genre de gibet monumental. Après, chaque justice criminelle, la justice est fragmentée sous l'Ancien Régime, au Moyen-Âge, donc chaque justice criminelle pouvait avoir son gibet, et donc il y a des architectures très différentes en fonction de cette hiérarchie. Il peut y avoir simplement deux poteaux avec une poutre qui les réunit. Voilà, ça dépend de la justice.
Ce que je trouve particulièrement intéressant dans cette découverte, c'est comment il y a des allers-retours finalement qui s'opèrent entre ce site de fouille, puis les archives, et comment ce plan, finalement, d'une charpente du gibet va vous amener à obtenir des réponses à d'autres questions que vous vous posiez, notamment sur ces squelettes. Là, on a plein d'éléments de réponse qui naissent avec juste la découverte de ce document papier.
Oui, à la fin, on a fini par comprendre toutes les questions, enfin une grande partie des questions que l'on se posait lorsque l'on fouillait. On a compris pourquoi ces inhumations étaient mises ainsi. On a compris qu'il s'agissait de condamnés qui étaient dépendus, qui étaient mêlés immédiatement, qui étaient mis immédiatement en terre. On a compris pourquoi il y avait des morceaux de corps et pas uniquement des corps entiers. On a compris pourquoi il y avait des perturbations, pourquoi il y avait des pelletés, pourquoi il y avait des translations de dépôts de corps. Et on a compris surtout une chose qui est importante dans la démarche archéologique, on a compris qu'il ne s'agissait pas de sépultures. Ce que vous avez remarqué, depuis le début, je ne parle pas de sépultures, je parle de dépôts, je parle d'inhumation. Pour être qualifié de sépulture, il faudrait que les dépôts aient été réalisés dans une intentionnalité positive, que le défunt ait été honoré. Or ici, rien de tel, et tout au contraire. On n'est pas dans un cimetière, ce n'est pas une terre consacrée. Toutes ces inhumations trahissent une mise en terre très brutale, avec des perspectives de perturbation pour chaque individu ensuite dans le futur. Donc il y a là des inhumations qui ont eu vocation à être infamantes, de façon à prolonger dans la mort la peine qui avait été prononcée lors du vivant.
Ce qu'on appelle la malmort, finalement.
Ce qu'on appelle la malmort, en effet. Et c'est un exemple de malmort, ce qu'une société considérait comme une malmort au XVIe siècle.
On n'a pas parlé aussi du fait que, parmi ces squelettes, il y avait beaucoup plus d'hommes que de femmes, si j'ai bien compris, qui étaient représentés.
Oui, il y a une surreprésentation, alors légère des hommes par rapport aux femmes, légère tout simplement parce que comme on n'a pas pu tout fouiller, on n'a pas l'ensemble du corpus, donc peut-être qu'avec une autre partie, le corpus aurait été un peu plus équilibré, mais en tout cas, effectivement, il y a plus d'hommes, des hommes relativement jeunes, jeunes immatures, un seul adolescent, mais quand même deux femmes dans ce corpus. Et donc, ça faisait partie des choses qui étaient un peu étranges pour un cimetière classique où il y a généralement une population naturelle avec des enfants, des hommes, des femmes et des hommes plus âgés.
Pourquoi c'est Est-ce qu'on a une idée des raisons pour lesquelles on pouvait être amené non seulement à être condamné à mort, mais en plus à être exhibé au gibet après sa condamnation à mort? Est-ce que parce qu'on a une vision un peu déformée par tous ces films américains qui nous présentent ces époques comme des époques où la condamnation à mort était assez facilement prononcée, c'est pas le cas en fait. C'était quand même il fallait faire quelque chose de très très grave.
Oui, c'est une condamnation extrêmement grave. La peine de mort au Moyen-Âge sous l'Ancien Régime est plutôt exceptionnelle dans l'ensemble du système pénal, mais elle n'empêche, elle intervient, elle restait ordinaire dans le paysage. Mmh. Et il faut soit avoir fait des crimes de sang, soit avoir défié l'autorité en particulier là l'autorité royale. Et les quelques noms que l'on a grâce aux études sur la justice qui ont déjà été réalisées, en fait ça montre justement quels étaient ces condamnés. Le premier, celui qui a inauguré, ça c'est un beau dossier aussi qu'a trouvé notre collègue des archives, c'est Michel Prévost, c'était un procureur du roi à Vienne qui a été accusé de malversation financière et donc au terme de son parcours judiciaire, il a été exhibé.
À l'époque, on pouvait être condamné à mort pour malversation financière.
On pouvait, effectivement. Il a fait tout un tas d'autres choses aussi. Ouais. On est en train de travailler sur ce dossier. ce sera un cas intéressant. Et c'est lui-même qui l'a inauguré, ce gibet. Mais ensuite, les noms que l'on possède pour l'instant, ce sont ensuite essentiellement des protestants dans les années 1575 qui ont été accusés d'avoir participé aux affaires de guerre, notamment à quelques affaires de siège de Grenoble. Donc quelques protestants qui ont été condamnés pour cela, et en particulier l'un des chefs protestants qu'il y avait en Dauphiné, Charles Dupuy-Montbrun, qui était condamné, exécuté et exhibé en 1575.
Alors là, vous parlez déjà de ces conflits qui sont en germe au moment où on construit ce gibet. Est-ce que ce gibet, justement, témoigne d'un raidissement, comme je l'évoquais en début d'émission, du pouvoir royal à l'égard des Huguenots, à l'égard de ceux que l'autorité royale qualifie d'hérétiques?
Alors, c'est une question que l'on a. C'est une question que l'on a parce que donc ce gibet a été construit en 1544 et on est assez peu de temps, en fait, après donc cette affaire des placards où on a allé afficher jusque dans la chambre du roi des pamphlets contre la messe. Donc, à ce moment-là, et de plus en plus, la lutte contre la réforme devient une affaire d'État. Et le pouvoir royal se raidit et envoie des instructions aussi à ses parlements pour qu'ils se saisissent de ces affaires-là. Donc après, la pratique dans les différentes juridictions varie, et il n'est pas particulièrement évident pour l'instant que la conséquence soit directe. Mais en tout cas, c'est une hypothèse, on y travaille, parce que on avait besoin peut-être de réaffirmer l'autorité du roi et de réaffirmer aussi les conséquences de défier l'autorité du roi.
Vous évoquiez donc dans les registres judiciaires la présence de condamnations prononcées en 1575 à l'égard de protestants. Est-ce qu'on sait si ces condamnés à mort sont effectivement ici présents ou bien ce sera difficile quand même de mettre des noms sur ces condamnés-là qui gisent sous le gibet?
Ce sera très difficile en effet pour deux raisons. La première, c'est que par principe, il n'est pas certain que ceux qui ont été exhibés au gibet soient inhumés au pied du gibet. Ils peuvent avoir ensuite été inhumés dans un cimetière, ils peuvent avoir été inhumés ailleurs, et même s'ils ont été inhumés dans un premier temps, ils peuvent avoir été désinhumés pour être inhumés ailleurs. Ça dépend des relations de la famille, d'une éventuelle réhabilitation. Donc ça, par principe, c'est possible. Et quand on a les noms dans les actes, on a les noms quand ils sont exhibés, mais on n'a pas ensuite la pièce pour dire qu'ils ont été inhumés ici. Donc première raison, et deuxième raison, comme on n'a pas la totalité du corpus, il est toujours possible que des individus soient à côté, et donc quand on fait des correspondances pour savoir qui est qui, en fonction des pathologies, notamment sur les squelettes, voilà, ce sera difficile d'avoir une certitude de ce point de vue.
Ce gibet, donc vous l'évoquiez tout à l'heure, Nicolas Mainviel-Larousse, a été construit entre 1544 et 1547, vous parliez de 1575 des condamnations à l'exhibition au gibet, combien de temps il a été en fonction, si je puis dire?
Alors, c'est une autre question que l'on a. On a le début, on n'a pas encore la fin. La dernière mention que l'on a du gibet dans la documentation écrite, c'est 1577. Les datations radiocarbone nous donnent une plage un peu plus large, mais c'est normal parce que la précision est moins, donc on peut aller jusqu'au milieu du XVIIe siècle, dirons-nous. Mais pour l'instant, l'hypothèse, celle qu'on va essayer de travailler, c'est qu'il aurait été abandonné, on va dire, au tournant du XVIIe siècle. Parce que là aussi, le contexte peut être pertinent. On est dans une phase de pacification, au contraire. On est au moment où Henri de Navarre devient roi de France, Henri IV. On est au moment où l'édit de Nantes va être préparé, va être écrit. Et on est aussi dans un moment, en Dauphiné, où le lieutenant général du roi à Grenoble, en Dauphiné, c'est l'édit Guerre, un ancien chef protestant, celui qui a pris la suite de Montbrun, justement. Et donc, sa politique va être la pacification, et sa politique aussi à Grenoble va être à l'agrandissement, à l'embellissement de la ville. Donc, il est possible qu'à ce moment-là, ce gibet en particulier, soit passé de mode, mais c'est à confirmer.
Que ce soit un peu comme une tâche, finalement, qu'on veut oublier, et une époque, finalement, violente, qu'on veut un peu mettre sous le tapis.
C'est possible, oui. Voilà, ce sera à creuser.
Ce qui est particulièrement aussi intéressant dans cette découverte du gibet à Grenoble, Nicolas Mainviel-Larousse, c'est que ça participe, comme je l'évoquais tout à l'heure, d'une archéologie qui est assez récente, qui est l'archéologie de la justice. Pourquoi cette archéologie-là est-elle aussi pertinente et importante à étudier pour comprendre ce que l'autorité fait matériellement au corps? Là, on fait du Foucault un peu à la petite semaine, mais voilà, comment caractériser cette archéologie-là?
Eh bien, c'est très intéressant parce que, en fait, on comprend mieux les normes, le centre, à partir de l'étude des marges et des cas qui sont justement en dehors. Parce que c'est en voyant comment une société a voulu se débarrasser, a voulu signifier qu'il y a eu une infamie, que l'on comprend ce qu'est le bon chemin. Donc c'est en fouillant les marges, c'est en fouillant ce genre d'édifice que l'on voit comment une société perçoit ses morts, et donc quelque part comment elle perçoit ses vivants.
Est-ce que d'autres types de gibets sont à mettre en regard de celui qui a été découvert à Grenoble? Est-ce qu'il y a d'autres exemples, comme ça, d'une archéologie de la justice qui s'exprime de façon matérielle en France, qui peuvent être... comment on peut faire ce réseau-là?
Alors, on a encore assez peu de cas immédiatement comparables, parce que c'est un champ de la recherche qui se développe en ce moment. Il y a des chercheurs qui ont pris ce champ-là à bras-le-corps. Je pense à Mathieu Vivas à l'université de Lille, notamment.
Qui était venu au micro de Vincent Charpentier.
Exactement.
Donc, en 2014.
Les recherches se développent. Elles avaient été déjà un peu plus avancées en Europe centrale, en Allemagne, dans les années 90-2000. Mais voilà, ça prend son essor en France et c'est une très bonne chose. Donc, on aura sans doute l'occasion de faire des comparaisons directes, mais pour l'instant, ça va être l'un des premiers cas, à la fois en termes d'architecture, en termes également de corpus ostéologique, que l'on mettra à disposition de l'ensemble de ses collègues pour faire avancer cette recherche.
Alors, on parle souvent, voilà, à ce micro, des travaux de fouilles, mais aussi des travaux de post-fouilles. Est-ce que ces travaux de post-fouilles concernant cette découverte à Grenoble sont achevés? Quelles sont les choses encore à régler, les questions encore auxquelles il faudra répondre pour vraiment circonscrire nos connaissances sur ce gibet de Grenoble?
Alors, il y a plusieurs étapes. Donc, il y a l'état du rapport d'opération. Donc, on est en train de l'achever. Donc, la post-fouille est presque terminée. On est en train de travailler en ce moment sur la restitution graphique du gibet, parce qu'on va pouvoir faire une restitution quasi complète et en détail. Donc, on travaille à cela. Ça nous permet aussi de réfléchir sur toutes les questions architecturales auxquelles on n'aurait pas pensé.
Quand vous parlez de restitution graphique, c'est de faire une modélisation, par exemple, du gibet en 3D?
Ça. Voilà, alors en 3D pas forcément, en tout cas pas dans un premier temps, la 2D la suffit pour avoir une idée précise. Donc on est en train de travailler là-dessus. Après, il y a en fait un ensemble de dossiers qui pourront être ouverts, mais dans le futur. Par exemple, dépouiller les archives judiciaires du Dauphiné pour identifier, continuer à identifier ceux qui ont été exhibés, et puis quelque part faire une étude un peu plus large sur l'exercice, les pratiques judiciaires en Dauphiné à la fin du Moyen-Âge et au début de l'époque moderne. Mais tout ça, ce sont des dossiers qui pourront se faire après l'opération. opérations, et sans doute qu'ils se feront par d'autres aussi, parce qu'en archéologie préventive, on n'est pas à chaque fois spécialiste de chaque opération que l'on dirige, mais notre travail, c'est de faire en sorte de mettre à disposition de la communauté scientifique des cas d'études et d'ouvrir les pistes de recherche qu'ils suivront ensuite.
J'aime aussi toujours savoir ce que deviennent les endroits où se sont passées ce genre de choses après qu'on arrête de s'en servir de la façon dont on s'en est servi. Phrase très alambiquée pour dire, mais qu'est devenu ce quartier-là, cette zone-là, après la fin du moment, ou après la fin de l'utilisation du gibet?
Eh bien, ce secteur a été progressivement occupé de façon de plus en plus pérenne par la communauté de Grenoble, de Saint-Martin, Le Vigneau, qui était à ce moment-là ici également. Le problème qu'ils ont eu, c'était de gagner de terrain par rapport à l'Isère qui débordait, qui redébordait sans cesse. Et donc, en fouillant ça, on a mis en évidence ces tentatives répétées de la ville pour lutter contre la rivière et finalement stabiliser un espace dans lequel ils vont se servir ensuite pour tout un tas d'activités, des lieux de promenade d'abord. Il y a un jeu de mile, c'est un ancêtre du cricket qui s'installe à proximité dans les années 1650. C'est ensuite un espace qui va servir à tout un tas d'activités publiques, des rassemblements, des exercices de troupes, des jeux de boules encore une fois, des lieux aussi de cantonnement, de fêtes foraines plus récemment au XXe siècle et jusqu'encore à aujourd'hui. Donc c'est un espace marginal en dehors d'une ville, mais qui a vécu avec l'extension de cette ville et quelque part la manière dont les hommes ont eu toujours à gagner du terrain par rapport à la nature.
Est-ce que la totalité de l'emprise a pu être fouillée? Est-ce que sinon c'est quelque chose qui est envisagé dans les années à venir?
Alors la totalité de l'emprise qui était donnée à la fouille a été fouillée. Donc ça c'est terminé et on ne pourra pas y revenir de toute manière. Et en fait, on a fouillé tout ce qui était possible de fouiller, parce qu'à côté, il y avait d'autres aménagements par ailleurs qui ont été faits antérieurement, et si bien que on n'a pas l'ensemble, mais c'est aussi le quotidien de ce type de fouille.
Les rails de tramway passent au-dessus d'une partie de ce site et on ne pourra pas faire sauter les rails.
Mais à moins d'être des Indiens. On aura quand même les dimensions et la restitution d'ensemble.
Quel bilan on peut tirer de cette enquête-là qui a conduit à cette découverte qui avait été annoncée comme une découverte macabre, ce qu'elle est, mais voilà, comment on peut définir ce travail de fouille et quel bilan, vous, en tant que chercheur, vous tirez de ces travaux qui ont été faits dans un temps assez ramassé?
Oui, déjà, la première bonne chose, c'est qu'on peut faire des diagnostics sur des endroits qui sont complètement inexplorés encore. On n'avait aucun élément pour dire qu'il y avait des vestiges ici. Donc, c'est bien que l'on puisse aller explorer les endroits complètement inconnus. Ensuite, c'est bien que l'on ait pu aussi vite et aussi bien articuler toutes ces sources et travailler en bonne intelligence avec plusieurs administrations, plusieurs institutions. Et surtout, on va pouvoir proposer des réflexions. En ce moment, il y a aussi des réflexions qui se déroulent sur ce qu'est une sépulture. Et avec ce cas-là, on va pouvoir donner quelques marqueurs archéologiques. Ici, on a un cas qui est bien documenté maintenant, qui est connu. Voilà comment, au XVIe siècle, une société marquait la Malemort. Et donc, ça pourra servir de comparaison à des études dans le futur, qui seront peut-être un peu moins claires, un peu moins évidentes. Ils auront un point de repère, qui ne sera pas suffisant, bien sûr, mais un point de repère, c'est déjà ça.
En tout cas, c'est une très belle découverte qui apporte de l'eau au moulin à cette archéologie naissante, entre guillemets, de la justice. Et merci beaucoup, en tout cas à vous, Nicolas Mainvielle-Larousse, d'être venu nous parler de cette découverte qui nous éclaire aussi sur cette période trouble des moments qui précèdent les guerres de religion.
Merci.
Notre exploration du passé touche à son terme. Un grand merci à toute l'équipe, Eve Etienne, Bruno Sansigny à la réalisation, Olivier Bétard. Merci à Élise Le aujourd'hui à la technique et merci à nos partenaires l'INRAP et l'INA. Vous pouvez réécouter cette émission comme toujours sur l'appli Radio France ou bien sur le site franceculture.fr. N'oubliez pas de régler vos montres à l'heure des sciences. On se retrouve la semaine prochaine, même heure, même endroit, pour une nouvelle exploration du passé au présent.